Dans le studio marseillais de Fréquence Mistral, je suis en compagnie de Sarah Champion-Schreiber. Vous êtes metteuse en scène au sein du collectif Transborder. Vous réalisez des projets de création partagée et vous avez été aussi comédienne. Bonjour.
Bonjour.
Et Marie Basmadjian, vous travaillez au sein du réseau Santé Marseille-Sud depuis 2016. Vous vous occupez des démarches participatives. Vous êtes vous-même patiente experte et on reviendra sur ce terme plus tard. Bonjour.
Bonjour.
Alors, encore heureuse, c'est ce qui vous lie toutes les deux. C'est aussi le titre du spectacle que vous avez monté ensemble avec le collectif Transborder. Alors, qu'est-ce qui dit ce titre de ce spectacle? Pourquoi ce choix-là?
Pourquoi ce choix de titre? Alors, Encore heureux, c'est un spectacle portrait de femmes séropositives, portrait de femmes vivant avec le VIH. Et pourquoi encore heureuse? Parce que malgré cette maladie, malgré ce virus, elles sont encore heureuses de porter leur voix sur scène. Et en fait, il y a une des femmes qu'on a interviewé et qui a témoigné. Donc au départ, le projet, c'est un projet de photo-récit. Il y a une quinzaine de portraits de femmes et l'une d'entre elles a sur sa jambe tatoué « Encore heureuse ». Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « Mais voilà, c'est ça le titre de ce spectacle ». Ça joue sur, déjà un message féministe aussi, dans la langue, de faire entendre cette expression « Encore heureux » mise au féminin. Et de faire entendre que les femmes ont à prendre la parole, ont à dire.
Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'écouter tout de suite un extrait, un teaser du spectacle qui va introduire un peu plus ce spectacle, ce qui raconte les voix des femmes qui sont sur scène.
Je ne veux pas.
Je ne peux pas.
Je n'en parle pas.
Je suis séropositive.
Ça fait 30 ans que je cache ma maladie.
Je m'appelle Geneviève.
Je m'appelle Nathalie.
Astia.
Je m'appelle Mélissandre.
Nadia. Sarah.
Charlotte.
Je m'appelle Iréti.
J'ai le sida. Je l'ai eu par ma mère depuis la naissance. Voilà. Si tu veux rester avec moi, ok. Si tu veux pas.
Mais j'en ai voulu globalement aux hommes de me mettre dans une situation pareille. Parce que moi, le port du préservatif, ça ne me dérange pas dans ma sexualité.
Femme de mauvaise vie, qui l'a bien cherché.
Je suis une des premières femmes dépistées.
Aujourd'hui, plus de 50% des personnes séropositives sont des femmes. Nous sommes invisibilisées. Dans les campagnes de communication, on ne parle pas des femmes. Les inégalités sont doubles, triples. C'est comme un millefeuille, ça s'additionne.
En 1996, la trithérapie est arrivée. J'étais au bord de la mort. J'ai été mise sous tri, puis sous 5 thérapies. Ça a marché. J'ai eu de la chance.
J'ai commencé à ressortir et à avoir des aventures.
J'étais informée. Je connaissais les traitements.
Notre fille n'a pas été contaminée. Elle a 1 an. Elle est en bonne santé.
Ça fait plusieurs années qu'on sait qu'on n'est pas contaminante quand on prend son traitement régulièrement depuis plus de 6 mois.
J'ai 37 ans.
J'ai 61 ans.
Je suis une femme trans.
Je l'ai appris en 2011.
Par échange de seringues.
Ça fait 21 ans.
Dans le ventre de ma mère.
Ça fait 30 ans que je vis avec.
D'entendre, c'est un extrait du spectacle Encore heureuse qui est mis en scène par Sarah Champion-Schreiber qui est ici dans le studio de Fréquence Mistral Marseille et dans lequel Marie Basmadjian est sur scène. Alors c'est la voix de 15 femmes, des témoignages de 15 femmes qui vivent avec le VIH, avec le sida.
Voilà, alors il y a une différence en effet entre VIH et sida. Le sida, c'est quand la maladie est active et le VIH, c'est le virus qui est présent mais en dormance. Et ce sont 15 femmes qui ont parfois, certaines d'entre elles, vécu le stade sida. Et donc, elles sont 15 femmes d'âge et d'horizons très, très différents. Elles ont été contaminées, pour certaines, il y a 30 ans et pour d'autres, l'année dernière. Donc, elles racontent chacune leur expérience par rapport à cette maladie et comment, à n'importe quel moment, malgré les traitements et les trithérapies, c'est toujours une maladie extrêmement stigmatisante et une déflagration pour chacune d'entre elles d'apprendre et d'avoir à vivre avec cette maladie.
Marie, vous avez témoigné et vous êtes aussi sur scène. Vous avez mis en voix pas que vos textes. Est-ce que vous lisez vos témoignages ? Est-ce que vous lisez les témoignages des autres femmes ?
En fait, la force de ce spectacle, c'est qu'on lit tantôt des extraits de notre propre récit et tantôt des extraits, on porte la parole des autres femmes et on lit les extraits de récits d'autres femmes.
Récit que vous connaissiez du coup avant, il y a eu ce travail d'écriture qui a été commun ou est-ce que vous avez écrit chacune de votre côté sur ce que vous avez vécu ?
En fait, Sarah nous a interviewées l'une après l'autre et elle a retravaillé les récits pour en faire et le spectacle pour en faire une dramaturgie, avec une dramaturgie quoi.
Et alors vous avez découvert les textes des autres à ce moment-là ou c'était pendant l'exposition photo
C'est pendant, à la faveur de l'exposition photo qui s'est déroulée au début de l'année à la mairie du 1er et du 7e arrondissement de Marseille quoi.
Et alors, vous vous êtes rencontrées à ce moment-là pendant ce spectacle ou alors avant ? Comment s'est fait votre rencontre à toutes les deux ?
En fait, c'est un long compagnonnage. Nous avons rencontré Sarah, je parle au nom du réseau santé Marseille Sud. Nous avons rencontré Sarah au Théâtre de l'Œuvre, qui était à l'époque artiste associée. Et nous avions déjà réalisé participer à une création participative de Sarah, champion Schreiber, cette création participative s'appelait Elle Dise, autour de la personnalité du procès de Louise Michel. Et c'est à l'occasion de cette création participative, Sarah champion Schreiber nous avait invités à dire un texte qu'on avait écrit à partir d'une interview qu'on avait menée. Et trois des quatre lectrices qui sont sur scène ont participé à cette création participative qui a été donnée aussi bien à la faveur de l'inauguration de la place Louise Michel, mais aussi au Théâtre de l'Œuvre quoi, et dans d'autres lieux de Marseille comme l'Alcazar.
Alors, ce n'est pas votre première expérience sur scène.
Voilà, ce n'est pas tout à fait pour trois d'entre nous, c'est une continuité. Quoi.
Et qu'est-ce que ça change de porter ces récits-là, de vos témoignages et d'autres récits autour de cette question particulière qu'est le VIH et le SIDA ?
Ben en fait, le fait d'avoir un spectacle pendant 45 minutes, parce qu'elles disent que c'était seulement quelques minutes sur scène, 45 minutes, c'est un vrai message que l'on porte, parce que c'est vrai que le VIH touche à deux tabous, la sexualité et la mort. Et en fait, ce que l'on recherche aussi à travers le spectacle, c'est de briser, enfin d'effacer les représentations qui sont très négatives concernant les femmes séropositives. Souvent, on les considère comme des femmes de mauvaise vie, de mœurs douteuses, des droguées, des travailleuses du sexe, des maris couche-toi-là, on l'a bien cherché. Et donc, on veut, à travers nos mots, faire évoluer ces représentations et être considérées comme des personnes dignes et bien dans leur séropositivité. Quoi.
Donc vous voulez briser le tabou, vous avez apporté un texte justement autour de ce tabou-là. Est-ce que vous êtes d'accord de lire ou d'abord je mets un extrait du spectacle ? D'abord je mets un extrait du spectacle et ensuite peut-être on vous délivrera une petite lecture. Alors, ça va arriver, je suis en train de mettre le son du spectacle extrait d'une représentation qui s'était faite au Mucem.
Elle est contaminée.
J'ai tout de suite appelé mes deux meilleures amies, elles ont été super. Mais j'ai mis plus de temps à en parler à ma famille. C'est quand j'ai été mieux que j'ai pu leur dire. Ma psychiatre m'a aidée à trouver les mots, on l'a écrit sur un papier. À la fin d'un repas, j'ai dit que j'avais quelque chose d'important à leur dire. J'ai demandé à ma petite sœur qu'elle lise la lettre. On a tous pleuré. Ça m'a soulagée. Ma mère a trouvé ça dur que je garde le secret si longtemps. J'ai aussi dû le dire à cet ami qui me l'a transmis, le VIH. Je ne lui en ai pas vraiment voulu à lui. J'en ai voulu globalement aux hommes de me mettre dans une situation pareille. Parce que moi, le port du préservatif, ça ne me dérange pas dans ma sexualité, au niveau de mes sensations. Ça n'a jamais rien changé. Souvent, c'est eux qui sont dérangés par cet objet. J'étais en colère là-dessus, parce que c'était pas le seul où j'avais dit « Ok, ça va, on peut ne pas mettre de capote », juste pour faire plaisir. Pour leur faire plaisir.
Il n'y a que mon fils qui le sait.
On vient d'entendre un petit extrait de Encore Heureuse qui justement touche à cette question de tabou, au fait de comment le dire aussi, comment annoncer le fait d'avoir été contaminée par le VIH. Peut-être Sarah, tu veux réagir, vous voulez réagir à ça?
Oui, donc pour beaucoup d'entre les femmes qui ont témoigné, elles ont parlé de cette difficulté de dire. Et d'ailleurs, certaines n'ont pas parlé, n'ont pas encore révélé ce fait qu'elles ont cette maladie, même à leur famille, à leurs enfants. Il y en a plusieurs pour qui, encore aujourd'hui, elles ne peuvent pas le dire à leurs proches. Et donc, dans ce travail qu'on a fait de photorécit, certaines se montrent, mais de manière à ne pas être reconnaissables. Donc, c'est comment je peux me raconter, mais aussi en me protégeant. Donc, certaines viennent sur scène et prennent la pleine visibilité et pour l'ensemble du groupe. Et c'est ça aussi qui est très fort, c'est cette solidarité de se dire il y en a quatre qui vont sur la scène, mais il y en a d'autres qui aujourd'hui ne sont pas toujours en possibilité d'exprimer pleinement et librement leur statut sérologique, sachant que en fonction de mon statut social, de mon origine, je n'ai pas les mêmes possibilités. Donc ça, oui, je pense qu'il y a quelque chose de très fort autour de ça. Et à quel moment je vais pouvoir révéler ça? Parfois, c'est au bout d'un an, de deux ans, de 20 ans. C'est vraiment...
Et quel travail vous avez mené pour amener justement ces femmes à se confier et à libérer leurs paroles?
Alors je pense que le fait qu'on ait ce partenariat avec le réseau santé depuis plusieurs années, il y a une confiance qui s'est établie. Le réseau santé est implanté au sein du théâtre de l'œuvre, donc et fait plusieurs activités là-bas. Donc ça, c'est quelque chose de très fort, comment un lieu de culture accueille une association sur des questions de santé et propose des activités culturelles et de bien-être. Et là, il y a toute une relation sociale qui s'établit. Et donc, on est en lien dans le quotidien. On a déjà travaillé ensemble. On se connaît. Et même si moi, je ne connaissais pas toutes les femmes, on s'est connues au fur et à mesure, elles entendent parler de mon travail, il y a une relation de confiance qui s'établit au fur et à mesure, et je pense que c'est cette relation de confiance qui est primordiale. Il y a aussi, d'être toujours à l'écoute de la possibilité, c'est-à-dire de jamais rien forcer. Si une personne, parfois, a reporté 3 ou 4 rendez-vous, ben, il n'y a pas de problème. C'est à son moment, à elle, quand elle le peut. Elle choisit ce qu'elle dit, ce qu'elle ne peut pas dire. Il y a des allers-retours permanents. Je réécris, je propose. Est-ce que ça te convient? On se redit ensemble. À aucun moment, il y a quelque chose qui ne convient pas. Et de la même manière, la photographe Clotilde Cranguillot a travaillé sur le plateau du théâtre de l'œuvre et avec le choix de la personne, comment elle veut être représentée. On en parle longuement. Et ensuite, elle se donne à voir, elle choisit avec la photographe son portrait, et tout est en relation de confiance, de bienveillance. On en parle aussi collectivement, on se montre les choses, et je pense que c'est à la fois cette confiance et cette force du collectif.
Marie, qu'est-ce que ça fait de partir de l'intime et puis de l'ouvrir aux autres comme ça?
Ben c'est très impressionnant. C'est vrai qu'au début, au moment où le projet a été mis en place, j'étais hésitante parce que c'est vraiment se dévoiler, aussi bien au niveau de son portrait qu'au niveau du récit. Et maintenant que je suis dans ce spectacle, je suis vraiment ravie d'en faire partie et de porter la voix des 15 femmes, mais aussi de toutes les femmes séropositives qui sont dans l'ombre et qui sont vraiment invisibilisées. Et bah, je suis heureuse maintenant de porter collectivement cette parole, quoi.
Porter cette parole pour aussi permettre donc de lutter contre le tabou, mais contre les tabous qui existent, mais aussi lutter contre les discriminations dont peuvent faire l'objet des personnes concernées par le VIH. À quel moment la situation se transforme en discrimination? Quelle situation d'exclusion, à quelle situation d'exclusion on peut faire face?
Bien, comme le dit très bien une jeune femme nigériane, si elle, qui a gardé le secret, même avec son mari, elle dit si je révélais mon statut, je serais exclue de la communauté et mon mari se séparerait de moi. Et donc pour elle, ce n'est pas possible de le dire, quoi. Donc ça, c'est une forme d'exclusion. Et puis il y a aussi l'auto-exclusion que l'on peut pratiquer, parce que c'est pas évident, notamment dans le cadre des relations amoureuses, de dire et de savoir à quel moment est-ce qu'on le dit et à quel moment on le dit, sachant que maintenant, et c'est important et on le dit bien dans notre spectacle, avec le TASP, le traitement comme prévention, une personne séropositive qui prend son traitement régulièrement et qui a une charge virale indétectable depuis plus de 6 mois, la charge virale, c'est la quantité de virus dans le sang, elle ne transmet pas la maladie, elle n'est pas contaminante. Donc, et de la même façon, une femme maintenant peut avoir un enfant naturellement comme tout un chacun, comme tout un chacune plutôt.
Sans risque de transmission.
Sans risque de transmission, quoi. Et donc ça, à travers notre spectacle, on affirme cela parce que ce n'est pas forcément connu, bien connu, même des personnes séropositives et encore moins du grand public, quoi.
Et en quoi cette discrimination, elle pèse encore plus sur les femmes? Comment elle vient se croiser à d'autres formes de discrimination? Déjà, juste la discrimination liée au genre, liée au fait d'être femme.
Alors, en fait, cette discrimination, elle est d'autant plus forte pour les femmes que c'est lié à cette question de la sexualité. Pour les hommes, ont cette liberté d'avoir une sexualité, de pouvoir coucher à droite à gauche, on va dire, entre guillemets, sans être stigmatisés par la société, sans qu'on leur dise « Ah, t'es un salaud », alors qu'une femme, ben voilà, il y a toujours cette image d'être une salope, entre guillemets, quand on a plusieurs amants, pourquoi pas, quand on est libre, enfin, quand on exerce sa pleine liberté sexuelle. Vu que le VIH est lié à la sexualité, voilà, il y a cette double discrimination, c'est-à-dire une femme qui a le VIH, alors non seulement elle a une maladie, et comment cette maladie se transmet, il y a vraiment des problématiques sur savoir de quelle manière, il y a une nécessité de se réinformer, et il y a aussi le fait que c'est lié à une maladie sexuellement transmissible. Donc ça joue énormément sur le fait d'être une femme qui a une maladie sexuelle. Mais comment elle l'a attrapée? En plus, c'est une maladie qui est aussi liée généralement à une première représentation des hommes homosexuels. Donc forcément, alors elle a côtoyé, de quelle manière? Et ça crée, je pense, une grande discrimination. Et l'autre discrimination, c'est que de toute façon, les femmes aujourd'hui dans la société ont beaucoup moins de possibilités d'expression. Donc la lutte pour la visibilité par rapport au VIH, elle ne s'est pas faite historiquement. par les femmes. Déjà parce que bon, il y a cette lutte militante des hommes homosexuels et c'est une réalité, et c'est une nécessité aussi de continuer le combat et la prévention pour les hommes, pour toute personne. Mais il y a aussi énormément de femmes qui sont touchés aujourd'hui. Aussi, c'est lié dans le monde aux violences faites aux femmes, aux questions d'abus sexuels, aux violences. Et ça, c'est encore aujourd'hui une réalité. Les hommes et les femmes ne vivent pas de la même manière. Elles subissent une violence de la part des hommes. Elles subissent ces abus. Et ça peut mener à attraper des maladies sexuellement transmissibles.
Vous commenciez à aborder le moment de le dire aussi, à quel moment le dire, comment le dire aussi.
Oui, c'est une question que l'on aborde dans le cadre de notre spectacle, effectivement, quoi. Parce que c'est... je vais en parler tout à l'heure quand je parlerai du réseau Santé Marseille Sud, mais c'est une question qui est récurrente, quoi. Depuis des années, on se la pose et on se la repose, et c'est un sujet qui est vraiment très important, quoi. Et il n'y a pas de solution, quoi. Il n'y a pas d'idée précise, quoi.
Est-ce que vous voulez lire un peu un extrait de texte?
Bien
que vous
volontiers.
Avez apporté?
Alors, je commence. On a fondé le collectif Femmes Plus. On a commencé à se battre pour notre visibilité, à nous les femmes. Aujourd'hui, plus de 50% des personnes séropositives sont des femmes. On n'en parle pas. Nous sommes invisibilisées. Dans les campagnes de communication, on ne parle pas des femmes. Les inégalités sont doubles, triples. C'est comme un millefeuille. Ça s'additionne. Le risque de contamination par le VIH d'une femme par un homme est deux fois plus élevé que dans la situation inverse. Pour des raisons biologiques, parce que les muqueuses vaginales sont plus vulnérables aux infections sexuellement transmissibles et parce que le virus est en plus grande quantité dans le sperme que dans les sécrétions vaginales. Et puis, les rapports violents ou forcés accroissent le risque de transmission à cause des lésions qu'ils entraînent. Et même dans un cadre consensuel, ce n'est pas évident pour une femme d'imposer le préservatif à son partenaire.
Dans ce spectacle, vous faites aussi de la prévention. Il y a des choses que vous abordez qui sont peut-être encore méconnues du grand public, alors que le VIH, ça a été un grand sujet. Ça a commencé dans les années 80. Il y a beaucoup d'associations qui viennent auprès des jeunes pour sensibiliser à ça. Et d'un autre côté, on a l'impression que c'est un peu disparu de l'espace public. C'est plus un sujet qui est médiatiquement traité. Les personnes séropositives sont devenues de moins en moins visibles. Et puis, de l'autre côté, il y a encore une peur d'aborder ça, de parler de cette maladie. Je vous propose d'écouter un extrait à ce sujet-là sur la prévention et après on en discute ensemble.
Ça fait plusieurs années qu'on sait qu'on n'est pas contaminante quand on prend son traitement régulièrement depuis plus de 6 mois. Cela s'appelle le TASP. On est indétectable, non contaminante. C'est ce que me dit mon infectiologue, je n'ai pas besoin de le dire. Grâce au traitement, j'ai cette liberté de vivre ma sexualité, comme tout le monde.
J'ai commencé à ressortir, à avoir des aventures. Je le disais systématiquement, je pense que j'arrivais à charmer suffisamment les garçons pour qu'ils aient plus envie de moi que de penser à la maladie. Je crois que les hommes pensent plus au plaisir qu'à ce qui peut arriver ensuite. Par contre, il y a des craquages de préservatifs. Et là, c'est compliqué, parce qu'il faut rassurer. Et j'aime pas être dans cette position. Comme si j'étais contagieuse, coupable. Et répéter encore ce que j'ai déjà dit, que je prends un traitement, que je ne suis pas contaminante. T'inquiète pas, ça craint rien. Et en même temps, le risque zéro n'existe pas.
Voilà, c'était un deuxième extrait sur le spectacle Encore Heureuse, qui est mise en scène par Sarah Champion-Schreiber, dans lequel Marie Basmadjian joue. Et c'est ce dont on vous parle aujourd'hui sur Fréquence Mistral Marseille. Alors Sarah, sur cet extrait, peut-être un rebondissement?
Oui, il y a vraiment cette question du besoin de savoir. Vous dites, c'est vrai, on n'en parle plus dans l'espace public. Les campagnes de communication ont disparu. C'est vrai que, évidemment, depuis plusieurs années, enfin là, depuis 2 ans et demi, il y a le Covid qui vient prendre toute la place dans les médias. Il y a aussi le fait que, je pense, depuis l'arrivée des trithérapies, cette idée qu'on peut vivre avec le VIH, et c'est une réalité. Il y a eu des progrès énormes qui ont été réalisés du côté de la médecine et pouvoir bénéficier de ces traitements. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que mondialement, tout le monde n'a pas accès à ces traitements, que ça peut bloquer des personnes. Par exemple, là, il y a une personne comorienne qui témoigne et elle ne va pas pouvoir rentrer aux Comores pour sa retraite parce que là-bas, il n'y a pas d'accès au traitement. Donc, il y a vraiment ces inégalités. Il y a vraiment un manque de savoir. Et je pense qu'aujourd'hui, si les personnes étaient au courant et se faisaient dépister, elles auraient accès au traitement et ça résoudrait en grande partie les choses. Ce qui est dit aussi là, à travers ces témoignages, c'est que les hommes sont beaucoup moins dans le lien à la médecine et à se faire soigner, donc ils ne se font pas dépister. Parfois les femmes, elles se font dépister parce qu'elles tombent enceintes, donc c'est aussi à l'occasion du frottis, donc il y a quand même une régularité, alors que les hommes non. Et il faut beaucoup plus que les jeunes hommes soient au courant, qu'ils prennent aussi en main leur sexualité, leur responsabilisation. Quand elle dit, c'est un problème encore aujourd'hui de dire aux gars, mets un préservatif, et non, pour le faire plaisir, j'ai dit OK, alors qu'elle, ça ne la dérange pas dans sa sexualité. Ça, je pense que toute femme y a été confrontée. toute femme qui a une sexualité, avec plusieurs personnes c'est pas normal, il faut le dire, le redire, il faut que les gens se fassent dépister, que les hommes prennent en main, et je pense que c'est le message aussi de ce spectacle, de s'adresser à une jeunesse qui n'est pas au courant.
Est-ce que vous diriez que votre spectacle est militant? Est-ce que vous avez envie de faire de spectacle aussi un vecteur pour lutter contre les discriminations qui existent encore?
C'est extrêmement militant parce que ces femmes, elles sont d'un courage remarquable. Elles montent sur la scène comme on va au devant d'une manifestation pour faire entendre des discriminations qui n'ont pas lieu d'être, c'est-à-dire pouvoir vivre dignement, de manière respectée, de ne pas avoir affaire à des paroles discriminantes, des paroles injurieuses. Et avoir le courage d'être là aujourd'hui dans cette société, c'est un acte militant très fort, et je pense que toutes les personnes le ressentent et se disent elles transmettent une force, un courage incroyable.
Il y a un extrait du spectacle qui peut faire écho à cette discussion là aussi, donc on en écoute un dernier sur le spectacle Encore Heureuse.
Je crois que là, je serai libérée d'un gros poids.
J'ai fait 3 coming out à 17 ans.
J'avance un petit peu pour avoir l'extrait précis, l'extrait qu'on a envie d'entendre.
Ce qui m'a aidé, la militance. En 1996, la trithérapie est arrivée. J'étais au bord de la mort. J'ai été mise sous trithérapie, puis sous 5 thérapies. Ça a marché, j'ai eu la chance. Par rapport à tous mes amis, pour moi la vie est repartie, mais je ne savais plus comment faire, comment vivre, comment trouver du sens. C'est là que j'ai poussé la porte du tipi. J'ai pu renaître, j'ai pu m'afficher, être moi. Et voir que d'autres personnes vivaient avec le VIH, que leur entourage ne les avait pas rejetés. Je suis devenue agent de prévention avec eux lors d'événements où tout était bon pour parler du sida, des hépatites, de la toxicomanie. On distribuait des seringues gratuitement. C'est là que le militantisme est arrivé pour moi. C'est là que j'ai connu ACT UP. Les campagnes de prévention, la protection. Silence égale mort.
j'entends ce violon qui accompagne les voix, c'est très fort. Alors, qui est au violon? Qui est-ce qui accompagne ces voix de femmes?
C'est Alessio Béret, qui est un violoniste absolument incroyable. Il a fait un travail remarquable. Je lui ai demandé de travailler à partir des musiques qui ont accompagné les femmes dans leur vie. Donc elles ont exprimé aussi quelles étaient les musiques. Et là, on entend un extrait que Marie avait choisi. Je peux te laisser peut-être en parler, Marie.
Oui, j'avais choisi notamment les Ânes galantes de Jean-Philippe Rameau, parce que c'est un compositeur que j'aime particulièrement. Et ben, je suis vraiment très touchée par ce travail de composition d'Alessio Béret. C'est vraiment remarquable et il joue merveilleusement bien, quoi. Et ça donne vraiment du corps à nos voix, quoi. Il y a un vrai travail ensemble qui donne vraiment une tonalité artistique au spectacle, quoi.
Avec quelle émotion et quelle réflexion vous avez envie que le spectateur, la spectatrice reparte après avoir vu Encore heureuse?
Avec alors je pense qu'on le ressent dans l'écoute des témoignages, c'est que c'est très fort. Il y a une très forte émotion. Elle est portée par les femmes. Elle est portée d'une manière digne. Il n'y a pas de pathos. Il y a pas de. C'est à chaque fois, c'est une force de dire son émotion, de dire ce qu'on a traversé. Je pense que c'est très important dans notre société de pouvoir s'exprimer sur des choses qui sont difficiles à dire, de pouvoir parler de son vécu personnel, de son émotion. Ce sont des choses qui sont très compliqué dans notre société. Elles le font avec une force poétique, parce qu'il y a évidemment aussi ce retravail du texte qui fait qu'on peut se réapproprier son histoire et la dire sur la scène. Donc je pense que ce qui est important pour nous, c'est que le public puisse entendre ces paroles et puisse se charger d'un courage de dire et d'être librement en ce monde. On peut être qui on est et on a la possibilité de vivre libre et digne.
Alors ce spectacle, il sera sur scène au Square Labadier ce lundi là qui arrive, le lundi 11 juillet 2022, dans le premier arrondissement de Marseille. Bon, pour ceux qui sont loin, vous pourrez éventuellement venir, et sinon vous informer, peut-être que ce spectacle va être amené à faire une tournée en région PACA. Alors Square Labadier dans le premier arrondissement, oui Marie?
Oui, donc c'est au Square Labadier près de la Rotonde, métro réformé, et le spectacle se déroule à 18h30. Et c'est un spectacle gratuit.
Et c'est organisé par la mairie du 1er et 7e arrondissement de Marseille, la compagnie Didascali & Co. Voilà, le rendez-vous est donné. Je vous remercie à toutes deux d'être venues dans le studio pour parler de ce spectacle Encore
oui.
Heureuse.
Je voulais quand même dire que c'est dans le cadre des événements Avant le Soir, organisés par la mairie du 1-7 et la compagnie justement Didascali, et qu'il y a des spectacles réguliers tout l'été à 18h30 dans les parcs et jardins. Et profitez-en.